VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, édition du mardi 17 juillet 2018. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Jean-Roger Billon.
Nous commençons par les titres.
Lancement hier en Côte d'Ivoire du nouveau parti unifié voulu par le président Alassane Ouattara.
En Guinée, l'appel à la journée ville morte a été largement suivi hier à Conakry.
Au moins 5 personnes ont été tuées dans une attaque des ADF hier dans l'est de la République démocratique du Congo.
8 migrants, dont 6 enfants, morts asphyxiés dans un camion en Libye.
Réaction généralement pas favorable des leaders républicains. Républicains et démocrates au Congrès après le sommet Trump-Poutine d'Helsinki.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
Le nouveau parti unifié du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, a été lancé lundi en Côte d'Ivoire avec à sa tête le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara à 2 ans de la prochaine élection présidentielle. L'Assemblée générale constitutive du nouveau mouvement s'est tenue dans l'après-midi dans un grand hôtel d'Abidjan.
Les délégués de plusieurs partis politiques et des personnalités favorables au nouveau parti unifié en ont adopté à l'unanimité les statuts après une heure de débat et désigné sans surprise comme leader M. Ouattara, qui était le seul candidat déclaré. Dans une deuxième étape, un congrès constitutif entérinera la création du ARHDP d'ici à la fin de l'année, selon un responsable.
Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, l'un des 2 grands partis de la coalition au pouvoir, a refusé de se joindre au RHDP, mécontent des termes de l'alliance proposée. Il exigeait comme préalable à l'union qu'une personnalité issue de ses rangs soit le candidat unique du RHDP à la prochaine présidentielle, ce que le RDR a refusé, bien que le PDCI ait soutenu M. Ouattara au précédent scrutin présidentiel de 2010 et 2015.
Cependant, un certain nombre d'élus et de cadres du PDCI ont choisi d'adhérer au RHDP. Une dizaine d'entre eux ont été nommés ministres dans le nouveau cabinet. Dans son discours devant les militants du nouveau RHDP, le président Ouattara a lancé un appel au président du PDCI, Henri Konan Bédier. « Il faut que nous restions ensemble, c'est ce que je vais dire à mon aîné », a déclaré M. Ouattara, rappelant les victoires passées obtenues grâce à l'Union, en particulier pendant les heures sombres de la crise post-électorale de 2010-2011, qui avait conclu la décennie de crise politico-militaire des années 2000.
En Guinée, la capitale Conakry était quasiment à l'arrêt lundi, où l'appel a observé une nouvelle journée ville morte pour protester contre l'augmentation de 25% du prix du carburant à la pompe a été largement suivi. La circulation était inexistante dans les principaux quartiers, à l'exception de celui de Kaloum, qui abrite ambassade et ministère, selon l'AFP. Les stations-service et les commerces étaient également en grande majorité fermés. Le gouvernement justifie l'augmentation du prix du carburant entrée en vigueur le 1er juillet par la hausse des cours mondiaux du pétrole.
En République démocratique du Congo, au moins 5 personnes ont été tuées hier dans une attaque attribuée aux rebelles ougandais des forces démocratiques alliées, les ADF, dans l'est troublé de la RDC. Selon des sources citées par l'AFP, l'attaque a visé une position de l'armée à Kabasewa, à 60 kilomètres à l'est de Beni, dans la province du Nord Kivu.
Selon un porte-parole de l'armée, 3 militaires ont été tués et 3 autres blessés. Il a aussi annoncé la mort de 2 rebelles dont le groupe a pillé la pharmacie du poste de santé ainsi que du bétail et fait des villageois des porteurs des affaires pillées. 3 civils ont également été tués, dont un infirmier, a de son côté déclaré Noëlla Moliwavio, la présidente de la société civile de Beni.
Le Parlement égyptien a approuvé hier une loi permettant d'accorder l'immunité judiciaire à des officiers supérieurs de l'armée pour des faits ayant eu lieu entre juillet 2013 et juin 2014. Ces dates correspondent à la destitution par l'armée de l'ancien président Mohamed Morsi et l'arrivée au pouvoir d'Abdel Fattah al-Sissi, à l'époque chef de l'institution militaire. Arrivé suivi, fait-on remarquer, d'une répression sanglante contre les partisans de M. Morsi.
D'autre part, le Parlement égyptien a approuvé une loi relative aux médias permettant aux autorités de surveiller certains comptes d'utilisateurs de réseaux sociaux afin, selon elle, de combattre les fausses nouvelles. La loi a été approuvée à la majorité des 2/3 et doit être envoyée au président Sisi pour approbation. Les organisations nationales et internationales de défense des droits de l'homme dénoncent régulièrement la violation de la liberté d'expression visant les voix dissidentes sous le régime du président Sisi.
8 personnes, dont 6 enfants, ont été retrouvées sans vie dans un camion frigorifique dans lequel se trouvaient une centaine de migrants de nationalité africaine et asiatique lundi près de Zouara, a indiqué la direction de la sécurité de cette ville de l'ouest libyen. Ces migrants étaient enfermés dans le camion pendant longtemps et 8 d'entre eux sont morts asphyxiés, a ajouté cette même source dans un communiqué publié sur Facebook. Des personnes en détresse respiratoire ont été admises aux urgences de l'hôpital de Zouara, ville côtière située à 100 km à l'ouest de Tripoli.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Sur le plan international, l'actualité continue d'être dominée par le sommet qu'ont eu hier à Helsinki, en Finlande, le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine. Après ces pourparlers, M. Traoré a qualifié de désastre. L'enquête sur l'ingérence...
Oui, il s'agit bien de M. Donald Trump, oui.
M. Trump a qualifié de désastre l'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle américaine de 2016, assurant en avoir parlé directement avec M. Poutine de leur tête-à-tête. Le point tout de suite avec John Lydon.
Le président russe Vladimir Poutine a jugé ses pourparlers avec son homologue américain très réussis et très utiles, en estimant qu'ils avaient commencé à mieux se comprendre. Donald Trump a lui aussi déclaré avoir eu un dialogue direct, ouvert et très productif. Le locataire de la Maison Blanche et l'homme fort du Kremlin se sont retrouvés en début d'après-midi dans le palais présidentiel au cœur de la capitale finlandaise qui a une longue tradition d'accueil de sommets Est-Ouest. Après plus de 90 minutes d'entretien et un déjeuner de travail, les deux hommes ont fait face à la presse. Très vite, les questions des journalistes se sont focalisées sur l'ingérence russe lors de la présidentielle de 2016. Donald Trump a dit avoir posé la question directement à Vladimir Poutine.
Il n'y avait personne avec qui conspirer. Il n'y a pas eu de conspiration avec la campagne. À chaque fois qu'on entendait 14 ou 12 inculpations, cela n'a rien à voir avec franchement. Et en plus, ils disent, ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec la campagne. On a mené une brillante campagne, c'est pour cela que je suis président. Merci.
A réitérer que la Russie ne s'est jamais intégrée dans les élections américaines, en précisant que M. Trump avait évoqué ce sujet qui fait l'objet d'une enquête aux États-Unis.
Une fois de plus, le président Trump a mentionné la soi-disant interférence de la Russie durant les élections de 2016 et j'ai dû réitérer ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, y compris durant nos rencontres. La Russie n'a jamais interféré dans les affaires intérieures des États-Unis.
M. Poutine a proposé à Donald Trump d'interroger ses agents. L'enquête effectuée à Washington sur l'ingérence russe en faveur de Trump dans la campagne présidentielle de 2016 a été relancée de façon spectaculaire à 3 jours du sommet par l'inculpation de 12 agents du renseignement russe accusés d'avoir piraté les ordinateurs du Parti démocrate.
Donald Trump s'en est pris aux côtés de Vladimir Poutine à l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence de Moscou dans la présidentielle de 2016 qu'il a portée au pouvoir. Une attitude qui a suscité moult réactions au sein de la classe politique américaine. Précision d'Irénée Herman Ungbo.
Le chef de l'opposition démocrate au Sénat américain Chuck Schumer a accusé Donald Trump de s'être montré irréfléchi, dangereux et faible face à son homologue russe Vladimir Poutine. Réagissant à la conférence de presse qu'il a tenue avec l'homme fort du Kremlin, le chef de file des républicains au Congrès américain Paul Ryan appelle de son côté Donald Trump à réaliser que la Russie n'est pas une alliée des États-Unis. Cette conférence de presse a été l'un des pires moments de l'histoire de la présidence américaine, a déclaré pour sa part le sénateur républicain John McCain. Selon lui, il s'agit d'une des performances les plus honteuses d'un président américain. Nancy Pelosi, chef de l'opposition démocrate à la Chambre des représentants, fait état de son côté d'un triste jour pour l'Amérique.
En Italie, 450 migrants qui se trouvaient à bord de 2 navires militaires ont tous débarqué en Sicile, très affaiblis par la détention en Libye et le voyage qui a coûté la vie à 4 Somaliens. Raissa Girondin.
Les navires ont été autorisés à entrer dans le port et tous les migrants ont pu descendre en pleine nuit. Ils stationnaient depuis samedi, proche des côtes siciliennes, dans l'attente d'une solution définitive. La décision du gouvernement italien fait suite à l'engagement de 5 pays de l'Union européenne, la France, l'Espagne, le Portugal, Malte et l'Allemagne, de prendre chacun 50 de ces migrants. Aujourd'hui, pour la première fois, nous pouvons dire que les migrants ont débarqué en Europe, a commenté avec satisfaction la présidence du Conseil des ministres. La Commission européenne a cependant appelé à trouver des solutions durables et mutuellement acceptées en évoquant des centres contrôlés dans l'Union européenne où les personnes secourues seraient transférées avant d'être réparties au sein du bloc européen. L'Italie se plaint depuis des années d'être abandonnée par l'Union européenne face à l'arrivée de centaines de milliers de personnes depuis 2013 sur ses côtes.
Nicaragua, les pressions diplomatiques s'intensifient sur le président Daniel Ortega, la communauté internationale, dont le secrétaire général de l'ONU, réclamant de toutes parts l'arrêt de la répression après 3 mois de manifestations violemment réprimées qui ont causé la mort de centaines de personnes. Il est absolument essentiel que cesse immédiatement la violence et que soit relancé le dialogue national parce que seule une solution politique est acceptable pour le Nicaragua, a déclaré hier le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.
Vous écoutez VOA Afrique, fin de ce journal.
La Minute Éco, Jacques Aristide.
L'économie ivoirienne a connu une croissance de 7,8% l'an dernier. C'est ce qui ressort d'un rapport de la Banque mondiale, chiffre qui est légèrement supérieur à ce qui avait été anticipé. Cette performance, qualifiée d'excellente, est principalement attribuée au secteur agricole et des services, même si les perspectives demeurent favorables. La BM met en garde contre des risques comme la hausse des prix du pétrole et les incertitudes autour du calendrier électoral. Elle recommande notamment que les politiques économiques de la Côte d'Ivoire tiennent compte des besoins des jeunes du pays. Au Libéria, le président George Weah a annoncé hier un train de mesures monétaire et fiscale destinée à enrayer la chute du dollar libérien qui cohabite avec le dollar américain et lutter contre l'inflation. Trouver des solutions durables aux défis macroéconomiques prendra du temps, dit-il. Parmi les mesures annoncées, l'injection immédiate dans l'économie par la Banque centrale libérienne de 25 millions de dollars américains afin d'éponger la liquidité excessive de dollars libériens.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Mondial 2018 a à peine terminé, la Ligue africaine des champions reprend ses droits.
8 rencontres sont au programme de la 3e journée aujourd'hui, à suivre notamment les chocs TP Mazembe MC Alger, Mbabane Étoile du Sahel, Alali Township Rollers et Oroya Wydad Casablanca. Le WAC est prêt d'après l'un de ses défenseurs, Ibrahim Komara.
Ça attend un gros match et sachant que l'équipe d'Oroya est une bonne équipe, voilà, on est venu pour arracher un bon résultat, on s'est bien préparé. Je pense qu'on va s'en sortir avec un très bon résultat, Inch'Allah.
Ibrahim Komara. Dans les autres rencontres, l'Espérance de Tunis reçoit Kampala City Council, l'AS Togo Port fera face à Mamelodi Sundowns et Zesco United jouera le 1er 2 agosto.
Les Bleus champions du monde ont célébré hier leur titre.
Après le sacre, le retour triomphal en France, les Bleus ont célébré leur titre de champion du monde avec des centaines de milliers de personnes venues les acclamer dans une ambiance survoltée. Ils ont descendu l'emblématique avenue des Champs-Élysées sur un bus à Impérial devant environ 300 000 personnes. Joueurs et encadrements ont ensuite été reçus à l'Élysée par le président Emmanuel Macron. Comme leur aîné de 1998, les héros de Moscou ont été décorés de la Légion d'honneur.
Un Ronaldo pas comme les autres à la Juventus.
Cristiano Ronaldo a déclaré lors de sa présentation qu'il était différent des autres joueurs de son âge, qui privilégie des contrats juteux au Qatar ou en Chine. À 33 ans, le quintuple Ballon d'Or a affiché son habituelle confiance en lui lors de la conférence de presse. Tout comme ses fans, le club turinois, septuple champion d'Italie, compte sur lui pour décrocher à nouveau la Ligue des champions qu'il n'a plus gagnée depuis 1996, alors que Ronaldo a remporté 4 des 5 dernières éditions.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'ancien président américain Barack Obama poursuit ce mardi en Afrique du Sud sa première visite en Afrique depuis son départ de la Maison-Blanche. Au Kenya, sa précédente étape, il a insisté sur l'autonomisation des jeunes. Le reportage de Raël Ombour, repris ici par Lionel Gahima.
Arrivé dimanche à Nairobi, Barack Obama s'est entretenu avec le président kényan Uhuru Kenyatta. Le lendemain, l'ancien chef de l'exécutif américain a inauguré à Kogelo le centre de jeunesse Saotiku, une initiative de sa démisseur Oma. Il a souligné la nécessité de miser sur les jeunes pour le développement de l'Afrique.
It begins with our young people.
Tout commence par nos jeunes, avec notre appui pour leur fournir des opportunités éducatives, économiques et culturelles qui peuvent autonomiser certains de formidables jeunes que vous voyez ici, les doter des compétences nécessaires pour changer leur vie et ensuite changer leur communauté. L'ancien président américain applaudit les efforts du président kényan Uhuru Kenyatta et de son rival politique Raila Odinga en vue de tourner la page sur la présidentielle controversée de 2017.
So there's been real progress in this amazing country. And it should inspire today's young Kenyans to demand even more progress.
Il y a eu dans cet étonnant pays des réels progrès qui devraient inspirer les jeunes Kenyans à demander beaucoup de progrès encore. La bonne nouvelle est que le Kenya s'est doté d'une nouvelle constitution, il a un nouvel esprit d'investissement et d'entrepreneuriat.
Seem to attend every election.
Barack Obama a appelé les Kenyans à transcender les tensions ethniques passées et à extirper la corruption qui entrave la croissance économique de leur pays.
It means no longer seeing different ethnicities as enemies or rivals, but rather as allies.
Cela signifie de ne plus percevoir les différentes ethnies comme des ennemis ou des rivales, mais plutôt comme des alliés. Cela veut dire voir les diverses tribus non pas comme une faiblesse, mais une force. Cela signifie veiller à ce que la croissance économique bénéficie à tout le monde et pas seulement une minorité et qu'elle soit partagée à travers toutes les régions. Pour ce faire, il faut garantir les opportunités scolaires à tout le monde, pas seulement aux garçons, mais aux filles aussi, a insisté Barack Obama.
Un accord historique entre l'Éthiopie et l'Érythrée vient de mettre fin à un conflit frontalier de deux décennies entre les deux anciens frères ennemis. Une nouvelle qui est bien accueillie par les réfugiés de ces deux pays voisins de la Corne de l'Afrique. Pour beaucoup, c'est une chance de retrouver leur famille pour la première fois depuis des années. Précision de Blanche Sanou.
Hello Rahel.
Bonjour Rahel.
Bonjour Reni.
Salam Lorie.
Comment tu vas ma chérie? Tu peux m'entendre?
Oui, ça marche, mais avec des problèmes mineurs.
Un rêve devenu aujourd'hui une réalité pour Enoch parler à ses proches n'était pas possible depuis des années. Mais cette semaine, il a pu joindre sa sœur qui vit en Érythrée. Grâce à un accord de paix signé récemment, des milliers d'Érythréens comme Enoch pourraient retrouver leur famille restée au pays.
Je n'ai pas de mots pour décrire l'excitation que nous ressentons ces derniers jours. Les gens de l'Érythrée et de l'Éthiopie ont vu comment le premier ministre éthiopien a été accueilli à Asmara. Nous vivons aussi paisiblement aux côtés du peuple éthiopien. Maintenant, tout le monde peut voir à quel point la paix est bénéfique pour tous.
Enoch fait partie de plus de 70 000 citoyens éthiopiens d'origine érythréenne qui, en 1998, ont été arrachés à leur famille, embarqués dans des bus et des camions à destination de l'Érythrée et ont reçu des documents de voyage avec l'inscription « Expulsé ne doit jamais rentrer ». Aujourd'hui, il loue un studio à Addis Abeba avec sa femme et son fils de 2 ans. Depuis que je suis arrivée ici, j'ai eu un petit garçon et j'ai toujours souhaité que ma mère puisse aussi être là. Maintenant que les choses sont rentrées dans l'ordre, l'opportunité est là, soit pour moi d'y aller, soit pour elle de venir ici. C'est vraiment génial. Cette réconciliation historique pourrait transformer la politique et la sécurité dans la région instable de la Corne de l'Afrique. Des milliers de jeunes ont fui cette zone ces dernières années à la recherche d'opportunités en Europe. Quant à Enoch, il a quitté l'Érythrée il y a 4 ans pour chercher du travail en Éthiopie. Depuis lors, il n'a plus jamais revu sa famille, un douloureux souvenir qui reste gravé dans sa mémoire.
Vous ne pouvez pas éviter la mort et la maladie car elles viennent de Dieu. Ma sœur a été séparée de notre famille pendant 14 ans. Elle est morte récemment dans mes bras. Elle pleurait toujours en disant « Vais-je mourir sans voir ma mère ?» C'est le résultat de la guerre. Il n'y a pas une personne qui n'a pas subi les conséquences de cette guerre.
Cet accord de paix a permis de dégeler les relations entre les deux pays. Les voisins ont accepté d'ouvrir des ambassades, de développer des ports et de reprendre des vols. Désormais, avec un service régulier d'Ethiopia Airlines prévu entre Addis Abeba et Asmara dès la semaine prochaine, Enoch et sa famille espèrent pouvoir un jour se retrouver ensemble à la maison.
En République démocratique du Congo, le rapatriement de la dépouille de l'ancien chef de l'opposition, Étienne Tshisekedi, à Kinshasa, n'a toujours pas eu lieu. L'ancien leader de l'UDPS est décédé à Bruxelles il y a 16 mois. La date du 30 juin 2018 annoncée par le ministre congolais de l'Intérieur n'a pas été respectée et les travaux de la commission mise en place pour l'organisation des obsèques n'avance pas. De Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire.
Basile Olongo, le vice-ministre en charge de l'Intérieur qui préside la commission, se contente de rassurer que les travaux vont reprendre incessamment.
Il y a eu une commission qui a été mise en place et de cette commission est née des sous-commissions. On devrait passer à l'étape de pouvoir désigner les membres qui devraient figurer dans ces sous-commissions. Ce qui a été fait par toutes les parties, la famille biologique, la famille politique et le membre du gouvernement. Et pour pouvoir avancer, la balle revenait au gouvernement de pouvoir décider sur le moyen, mais il devrait être fait un travail au préalable par la commission technique. Laquelle commission technique devrait réunir toutes les données pour des études au préalable pour savoir qu'est-ce qu'on fait exactement.
À l'Union pour la démocratie et le progrès social, on parle de mauvaise foi. Augustin Kabuya, le secrétaire général adjoint de l'UDPS en charge de la communication, pointe le régime de Joseph Kabila du doigt pour justifier le blocage.
Voir les gens qui gèrent la République démocratique du Congo combattre même un corps sans vie, sans tenir compte même de la veuve Tshisekedi, maman Marthe, il y a aujourd'hui 17 mois, jour pour jour, depuis que le fait docteur Étienne Tshisekedi nous a quittés. À une certaine époque, maman Marthe avait lancé l'appel aux dirigeants africains d'intervenir dans les dossiers de son fait époux. Aucun chef d'État n'a parlé à Joseph Kabila pour qu'il comprenne quand même que non, nous sommes des Bantous, ça ne peut pas se faire de cette manière-là. Le 26 mai, nous étions au cabinet du vice-premier ministre, le professeur Henri Movasakagne. Depuis ce temps-là, ils ne nous ont jamais contactés. On s'était mis d'accord pour mettre sur pied une commission qui devrait travailler sur le rapatriement. Les jours suivants, nous étions obligés d'amener nos listes de délégués au cabinet. Il y a même les accusés de réception. Depuis ce temps-là, il n'y a jamais eu de contact autour du dossier.
Dans la rue, quelques Kinois interrogés par VOA Afrique sur la question chargent également le gouvernement et recommandent que tout soit mis en place pour l'organisation des obsèques dignes de l'illustre disparu.
À son rang, nous ne croyons pas que le fait président Étienne Tshisekedi pouvait traîner au moins 17 mois à l'extérieur. Ça prouvait suffisamment l'irresponsabilité de notre gouvernement. Récemment, il y a eu une commission qui avait été mise sur pied. Vous avez vu les grandes personnalités du gouvernement qui sont allées jusqu'à dire qu'au plus tard, le 30 juin, le corps sera rapatrié et puis il sera enterré dans de bonnes conditions. Dans de pays respectueux, ces genres de personnes seraient d'office chassées de ces gouvernements.
On n'a pas un régime en place qui peut entrer un grand homme comme lui. Donc nous pensons très bien qu'après le départ de ces gens, nous entrerons le grand homme, l'icône. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur que lorsque son corps arrive, ça peut basculer pour que le régime tombe.
Pour moi, ça me fait mal. Un grand homme de son rang, son corps ne peut pas traîner comme ça à l'étranger. Il est congolais, il a fait beaucoup de choses ici au Congo. Pourquoi il refuse le rapatriement? Ce sont des questions que nous nous posons jusqu'à aujourd'hui, mais on ne comprend absolument rien.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24h sur 24.
Le président Trump et son homologue russe Vladimir Poutine se sont rencontrés hier à Helsinki pour leur premier sommet bilatéral. Les deux chefs d'État ont plaidé en faveur d'une amélioration des relations entre leurs deux pays, malgré l'enquête sur l'ingérence russe présumée dans l'élection américaine de 2016. Le président Poutine a une nouvelle fois nié toute implication de son pays. Pour une analyse, Abdulrahman Dia a joint hier, ici à Washington, l'analyste politique Lorenzo Morris.
Beaucoup de monde, y compris quelques républicains, ont demandé l'annulation de ces rencontres suite à la montée d'évidence et même les chefs d'incompréhension contre les 12 espions ou des gens dits espions venant de la Russie et qui ont ingéré dans notre dernière élection présidentielle.
Oui, mais justement, lors de la conférence de presse commune, le président Poutine a encore une fois nié toute ingérence russe.
Il n'y avait pas de doute qu'il ne nierait. Il n'y avait pas de doute non plus qu'il ment. Parce que l'évidence est bien trop forte. On ne sait seulement pas si des gens liés avec Trump étaient liés aussi avec cette ingérence, mais on a tant d'évidence que les Russes ont, pendant la campagne, à partir de vols, des courriels du Parti démocrate, y compris une évidence importante de l'ingérence directe dans les scrutins de certains États pendant l'élection présidentielle.
Mais est-ce qu'on peut reprocher au président Trump d'essayer de réparer les relations entre les deux pays? Il n'est pas le premier président américain à rencontrer un chef d'État russe.
Oui, mais on est toujours ouvert à l'idée de rapprochement entre pays, mais par contre, président Obama, après l'ingérence de la Russie en Syrie et ailleurs, a annulé la réunion proposée avec lui. Il faut en même temps qu'on soit ouverte à un rapport avec un autre pays, qu'on exige un certain respect pour ses propres démarches démocratiques, un certain respect pour les processus internes d'un pays. On ne peut jamais accepter qu'un gouvernement étranger agisse directement dans notre politique.
Mais le président Trump a tweeté en disant que si les relations entre les deux pays sont aussi mauvaises, c'est un peu la faute des États-Unis. Vous êtes d'accord?
Personne n'est d'accord, même pas les membres de son propre parti. C'est simplement une politique pour établir un meilleur rapport avec ses supporters qui croient qu'il est menacé par un groupe de gens, de ce qu'on appelle ici l'establishment, un groupe de gens bien au pouvoir qui s'opposent à toute nouvelle politique, à tout changement.
Contacté hier à Washington, l'analyste politique Lorenzo Morris, professeur à Howard University.
VOA Afrique, votre santé, votre avenir.
Un magazine sur votre bien-être. Vous avez des questions sur votre santé? Vous voulez prévenir vos maladies? Les soigner à temps?
Quelle alimentation adopter pour une vie saine? Comment bénéficier des programmes initiés par vos gouvernements ou des ONG dans vos pays?
Suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique avec Rosine Mounezero
et Mohamedou Oumpa, samedi à 8h30, temps universel.
Votre santé, c'est votre avenir.
Be gone psycho, lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show, got diamonds by the bolo. Come with the Tony Homo for clowns and all the balls. Oh, I be gone psycho, lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show, got diamonds by the bolo. Don't act like you my friend when I'm rolling through my hands. Oh, you suck in the friend zone. I tell like 4, 5, 5. Ayy, 100 bins inside my short to chino. Ayy, try to stuff it all in, but it don't even fit. Ayy, know that I've been with ever since the jit. Ayy, I made my first million, I'm like, this is it. Ayy, 34, walk through, man, we had lit. Ayy, had so many bottles, gave ugly girl a sip. Out the window of the Benzo, we get sent in the rent. And I'm like, whoa.
Le Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité et à Georges-Léonard Sagnot pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.